J'aimerais parler sur les caractéristiques du disciple dans Luc chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour en calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, lorsque quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais peu sont de véritables disciples. Parce que être chrétien, c'est, si on vous dit qui veut être béni, qui veut de Dieu dans sa vie, qui veut avoir une guérison, une grâce, alors tout le monde est d'accord. Mais pour être disciple, il y a des conditions. Et d'ailleurs, le mot disciple a donné en français le mot discipline. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup la discipline. En général, on aime bien la liberté. Faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on en a envie. Mais être un disciple, ça nous parle de consécration, de renoncement, d'accepter la volonté de Dieu, de renoncer à notre volonté, de choisir plutôt ce qui plaît à Dieu que ce qui nous plaît. Donc c'est autre chose. Et c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de croyants, parce que pour rechercher les grâces et les bénédictions, il y a toujours du monde, mais il y a peu de disciples. Et c'était déjà vrai à l'époque de Jésus, et je crois que le monde n'a pas beaucoup changé, parce que parmi tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, il y a très peu de disciples, parce qu'ils ne sont pas prêts au renoncement. Et le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous l'avons accepté comme sauveur. Nous croyons que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Nous l'avons déjà accepté comme sauveur. Qui l'a accepté comme sauveur déjà ce matin ? Voilà, pratiquement la plupart, gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne suffit pas d'être sauvé, simplement. Il y a une autre étape qui consiste à accepter Jésus comme notre Seigneur. Accepter Jésus comme notre Seigneur, alors gloire à Dieu, on est sauvé, merci Seigneur, on a la vie éternelle. Ça, c'est la première étape. Et l'étape du disciple, c'est, est-ce que vous acceptez que Jésus soit le Seigneur de votre vie ? C'est-à-dire que s'il est le Seigneur, il devient votre maître et il est en droit de vous demander des choses et d'exiger des choses de vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Et là, il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à accepter que Jésus soit leur Seigneur parce qu'ils ont peur que Dieu va leur demande quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais c'est ça, être un disciple. C'est passer le cap où on se dit « Oui, je suis béni, gloire à Dieu, je suis sauvé, merci Seigneur. » Et c'est très bien parce que sans ça, on est perdu et séparé de Dieu pour toujours. Et il faut passer par la nouvelle naissance et accepter Jésus comme sauveur. Mais je veux dire que si vous vous arrêtez là dans la vie chrétienne, c'est comme si vous aviez juste fait le premier pas, mais vous n'êtes pas encore en train de marcher dans la vie chrétienne, la vie du disciple, qui est une vie d'acceptation de la volonté de Dieu, de renoncement à soi-même, d'accepter que Jésus dirige notre vie, de renoncer à tout pour Jésus. Et c'est ça que je voulais voir avec vous ce matin. c'est les caractéristiques du disciple. Le premier point, c'est leur consécration. Regardez le verset 25. Il y avait des grandes foules qui suivaient Jésus. Mais ces grandes foules, elles suivaient Jésus pourquoi ? Parce que beaucoup étaient guéris, parce qu'ils entendaient des messages qui fortifiaient leur cœur, parce qu'ils étaient des fois nourris avec les pains et les poissons. Donc, des fois, il y avait des délivrances de gens possédés. Donc, ils venaient en fait pour un intérêt personnel. Ils venaient parce qu'ils recevaient quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y avait des grandes foules. Mais vous allez faire la distinction entre les grandes foules, qui sont toujours très, très nombreuses, à vouloir être bénies, à vouloir recevoir les grâces, et puis les disciples. Les disciples, c'est beaucoup plus resserré, parce que dans cette foule-là, verset 25, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus leur dit, il se retourne vers ces grandes foules, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Jésus savait très bien que dans ces grandes foules, la plupart le suivaient par intérêt personnel. Mais il n'était pas prêt à être des disciples. Et c'est pour ça qu'il va lui-même leur expliquer, il faut faire un pas décisif pour être un disciple. On sait qu'autour de Jésus, il y avait des grandes foules qui étaient là, qui le suivaient par intérêt. Et parmi ces foules, il y avait un groupe plus restreint qu'on appelle les 70 disciples, qui ont été utilisés ponctuellement dans l'évangélisation. Jésus les envoyait, par exemple, dans les villages, proclamer le royaume de Dieu, prier pour les malades. Et ces disciples, on les voit apparaître une ou deux fois dans le Nouveau Testament. On les voit assez peu, finalement. Ils étaient des disciples un peu lointains, mais ils étaient déjà plus avancés que les foules, parce qu'ils voulaient vraiment faire les choses de Dieu. Mais ils n'étaient pas aussi avancés que les disciples, les 12. Mais ils étaient quand même de ceux qui avaient fait un pas de foi vers le Seigneur. Seulement, je dirais que si on s'approche de Jésus, il y avait les 12 qui étaient des vrais disciples, ceux qui étaient consacrés, qui avaient renoncé à tout pour suivre Jésus, qui étaient prêts à le suivre partout où il allait. Ils avaient donc cette foi et ce zèle pour le Seigneur. Et parmi même ces disciples, il y en avait trois particuliers qui s'appelaient Pierre, Jacques et Jean. Et ces trois disciples ont été appelés par Jésus dans des circonstances particulières. Donc Jésus n'appelait pas tout le temps les 12, mais par exemple, lors de la mort de la fille de Jaïrus, c'était une petite fille qui était décédée, Jésus s'est seulement entouré de Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas pris les 12, et il est allé prier pour la résurrection de cet enfant. Et par la grâce de Dieu, l'enfant est ressuscité, mais il n'en a pris que 3. Le jour où Jésus est apparu glorifié sur la montagne de la Transfiguration, il n'a pris que 3 disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean, les 3 mêmes. Toujours les 3 qui étaient particuliers. Donc on voit même parmi les disciples, certains étaient particuliers dans le cœur de Jésus parce qu'ils avaient davantage soif. Et au moment où Jésus va donner sa vie pour le monde, dans le jardin de Gethsémané, il est là en train de prier et il combat un combat spirituel pour dire « Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne ». Et là, la Bible dit qu'il s'est entouré de 3 disciples, toujours les mêmes, Pierre, Jacques et Jean. Donc parmi les 12, ces 3-là étaient appelés par Jésus à des moments particuliers, ce qui montre même que parmi les disciples, certains vont être utilisés davantage que d'autres ou dans des moments plus particuliers. Pourquoi ? Non pas que Jésus fait des préférences ou choisit à la tête du client, comme ça se fait dans le monde, mais il voyait dans leur cœur des dispositions, une soif que n'avaient pas les autres, et il s'est dit, ces 3-là, je les veux avec moi. Et ensuite, parmi ces 3-là, vous en avez un particulier, et c'est d'ailleurs le seul, que l'on voit le soir de la Pâque, la dernière Pâque, où Jésus a rompu le pain et partagé le vin avec ses disciples. Et c'était Jean, la Bible dit qu'il avait sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus, et il entendait battre son cœur. Et c'était parmi les 3 celui qui aimait encore plus le Seigneur. La Bible l'appelle le disciple que Jésus aimait. Donc on a ici, parmi les disciples, une sorte de progression, ce qui nous invite à nous, non seulement à devenir des disciples, déjà de quitter la foule, de quitter ceux qui viennent pour profiter toujours, pour avoir plus, et qui suivent le Seigneur par intérêt, à devenir déjà des disciples. Mais même une fois qu'on est devenu un disciple, on doit encore chercher davantage le Seigneur pour être un disciple selon le cœur de Dieu. Il y a un point ici, au verset 26, qui enseigne, Jésus dit tout de suite à ses foules. Alors, je vous le lis dans la version littérale, c'est dans Luc 14, 26, mais ce n'est pas exactement la version que j'ai lue. Littéralement, c'est « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Première condition, donc, il faut préférer Jésus à toute autre chose. Préférer Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. Mais comment Jésus peut-il demander de haïr ses propres parents ? Comment peut-il demander de haïr ses enfants ? Est-ce que c'est possible ? Bien, en fait, il faut comprendre qu'il s'agit d'un hébraïsme, une manière de parler des Hébreux, la manière des Juifs, de montrer que notre amour, il doit être plus important pour Dieu, ou ici pour Jésus, que pour toute autre personne. Tout simplement, ça veut dire ça. Il ne s'agit pas de les haïr littéralement, mais en tout cas, on ne peut pas les aimer plus que Jésus, que Dieu. C'est ça le sens de ce texte. Si Jésus n'a pas la première place dans votre cœur, si ce qui compte pour vous, c'est votre famille, c'est votre maison, c'est vos biens matériels, c'est votre voiture, c'est votre train de vie, c'est votre travail, si votre temps, il est là, c'est que déjà, c'est une idole dans votre cœur qui a pris la place de Dieu et Jésus ne fait pas de partage. Jésus, il veut toute la place, la première place, il veut. Ensuite, après lui, vient le reste. Épouse, enfant, parents, les amis, etc. Tout le reste vient en second. Nos projets ne doivent pas être pour nous une priorité. Notre priorité, ça doit être d'abord, quelle est la volonté de mon Seigneur ? Qu'est-ce que Jésus veut pour ma vie ? Ça, c'est le disciple. Le croyant, lui, le croyant, c'est, il pense que tout ce que je fais, Dieu le bénit. Mais ça, c'est pas toujours la volonté de Dieu, parce que tout ce que nous faisons n'est pas forcément inspiré. Donc, le point suivant, c'est qu'il doit porter sa croix, toujours dans ce même texte. Il y a trois éléments. Le premier, c'est que le disciple, il va préférer Jésus à tout autre. Le deuxième, c'est le verset 27. Il va porter sa croix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors là, maintenant, il s'agit de porter sa croix. Ça veut dire quoi, porter sa croix ? Ça veut dire aller à la mort. Aller à la mort. Alors, est-ce que c'est très enthousiasmant comme programme ? Là, on commence à réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment être un disciple ? Ou on préfère la foule ? Non, mais c'est comme ça que Jésus parle. Quand il dit, si vous voulez être un disciple, il faut commencer par porter sa croix. Mais porter sa croix, ça veut dire mourir. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a jamais beaucoup de candidats pour être disciple. Les gens préfèrent toujours la foule. La foule, il n'y a pas de mort à soi-même. Mais quand on portait sa croix, on le sait très bien, le condamné à mort, donc ça veut dire quoi porter sa croix ? Il allait sur le lieu du supplice pour être crucifié. C'est ça, porter sa croix. Le disciple doit donc accepter la souffrance d'abord, la souffrance et l'opprobre, le rejet à cause de Christ. C'est ce que, dans Hébreux chapitre 11, verset 26, c'est ce que l'auteur aux Hébreux dit par rapport à Moïse. Moïse a connu un certain rejet. Il dit comme ça, il regarda, donc c'est Moïse, il regarda l'opprobre de Christ. Qu'est-ce que c'est l'opprobre ? C'est la honte. La honte de quoi ? Eh bien, c'est que des chrétiens seront rejetés parce qu'ils ont la foi. Au travail, ils seront mis de côté, ils seront méprisés, ils seront jugés. C'est la honte à cause de l'Évangile. Il regarda l'opprobre de Christ, mais comment est-ce que nous devons regarder l'opprobre de Christ ? Ou la croix, ou le fait d'avoir cette souffrance à cause de l'Évangile ? Comment est-ce que nous allons la regarder en disant « Seigneur, tu vois, tout le monde me rejette, personne ne m'aime, je m'en sortirai jamais dans la vie. » Ce n'est pas comme ça. Il dit « Nous devons la regarder comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Gloire à Dieu. Voilà comment nous devons regarder l'opprobre de Christ. La souffrance que nous portons en tant que chrétiens, eh bien, c'est une richesse plus grande que tous les trésors du monde. Quand nous avons le Seigneur avec nous, il avait les yeux fixés, non pas sur les choses temporelles, terrestres, sur la rémunération céleste, spirituelle. C'est comme ça qu'il a avancé, c'est un exemple pour nous. Et puis, le condamné à mort savait qu'il allait mourir. Et il n'y a pas de disciple sans mort, c'est-à-dire être crucifié avec Christ. si on n'accepte pas d'être crucifié avec Christ, on est encore dans la foule. La foule qui vient pour ses bienfaits personnels. Mais le disciple, lui, il fait un pas de plus, il accepte de porter sa croix et de mourir à lui-même. C'est un petit peu comme on le voit dans la nature avec la chenille. La chenille n'est pas destinée à rester toujours chenille, elle va passer par le stade de la chrysalide, mais la chrysalide, c'est quoi? C'est une mort à soi-même. La chenille va donc mourir. Mais cette mort est bonne, parce que de cette mort, cette chenille qui va disparaître, en fait, il va ressortir quelque chose de nouveau, le papillon. Le papillon va se former à travers cette disparition, et c'est une métamorphose complète. Quand vous regardez la chenille, elle est appelée à ramper et à vivre toute sa vie sur le sol. Et quand vous regardez le papillon, mais quel est le point commun entre le papillon et la chenille? La chenille, elle ne voit que la terre, son horizon est bas, elle est limitée. Le papillon, il peut s'élever dans les airs. Il n'y a rien de commun entre les deux. Vous voyez la métamorphose, elle est complète, elle est totale. Mais c'est l'image entre celui qui n'est pas dans le Seigneur, qui accepte Christ, qui meurt à lui-même et qui vit une nouvelle vie. Mais c'est une vie qui n'a plus rien à voir avec son ancienne vie. Mais d'abord, il faut passer par la mort de la vieille nature. Alors, c'est dans Romains 6:6, Paul l'exprime comme ça, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Notre vieil homme, comprenez notre ancienne nature, la nature charnelle, celle qui est dans la foule, celle qui ne veut pas devenir un disciple. Mais une fois qu'on a accepté de devenir un disciple, alors cette nature-là, elle doit mourir. Sinon, vous ne pourrez pas être un disciple. Vous ne tiendrez pas, vous retournerez dans le camp de la foule. Et puis, le dernier élément que Jésus cite, c'est au verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Donc Jésus continue. Il continue. D'abord, il explique de préférer Jésus à tout, ensuite de porter sa croix, c'est-à-dire mourir à soi-même, et enfin de renoncer à tous ses biens en disant « Maintenant, c'est toi qui es le Seigneur sur ma vie. Tu diriges mes biens t'appartiennent, je suis le gestionnaire des biens que tu m'as confiés, mais je reconnais que tous les biens viennent de toi. » Ça, c'est le disciple. Ah oui. Et là, vous remarquerez qu'il y a encore moins de candidats, parce qu'à chaque fois, ça se resserre, et les gens veulent bien encore mourir à eux-mêmes jusqu'à un certain point, mais touchés à ses finances, les gens ne sont pas trop d'accord. Mais Jésus, en fait, la parole de Dieu, ce n'est pas tellement qu'est-ce qu'on a envie d'entendre, qu'est-ce qu'on aimerait bien que Jésus nous dise, c'est plutôt... qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Et ça, c'est le disciple, et de l'appliquer dans notre vie. Si pour vous, l'argent, c'est encore une passion, c'est encore une idole, que vous voulez en faire ce que vous voulez sans en référer à Dieu, vous ne pouvez pas être un disciple. C'est comme ça, c'est écrit, Jésus le dit, l'argent doit être abandonné entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui en est le maître. S'il ne l'est pas dans votre vie, c'est que l'argent est une idole pour vous, très clairement. Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Donc notre argent, tout est à Dieu. C'est Dieu qui doit en disposer comme il le désire. Et ça implique la prière, ça implique, avant de faire des achats, de chercher la volonté de Dieu, ça implique beaucoup de choses. Voilà le disciple. Il ne va pas faire des achats sur des coups de tête, n'importe quoi, ce qu'il a envie, ce qui lui passe devant les yeux. Ça me plaît, tiens, une nouvelle voiture, je vais acheter une nouvelle maison, ceci, cela, pour me faire plaisir. Non. Il sait que maintenant, c'est bien, tout appartient à Dieu, je vais prier, je vais chercher la volonté de Dieu et je vais lui obéir. Ça, c'était la première partie, donc dans ce récit, toutes les caractéristiques que Jésus donne, il y en a trois. Je continue avec Marc chapitre 3, verset 14. Maintenant, une deuxième partie, c'est la communion avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut? La communion. Jésus a pris ses disciples, le texte dit, il en a établi 12 pour les avoir avec lui. Ça veut dire que Jésus aime passer du temps avec ses disciples. Il aime leur communiquer sa vision, il aime leur communiquer son fardeau, il aime partager ce qu'il a sur le cœur. C'est pour ça que nous devons être des disciples selon le cœur de Dieu, pour recevoir un cœur à cœur. Mais ça, ça se passe dans la communion. Dans la proximité, les disciples pouvaient avoir un échange. Regardez Matthieu 17, 10. Les disciples lui posèrent cette question. Ils peuvent lui poser des questions parce qu'ils vivent avec lui. Il y a une communion qui s'est établie. Quand vous êtes en communion avec Jésus, vous pouvez lui parler et il vous répond. Ils lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes, disent-ils, qu'Élie doit venir premièrement? Il lui pose une question. On a vu ça dans la parole. Élie doit venir premièrement. Qu'est-ce que Jésus, tu dis de ça? Pourquoi? Quand ça va se passer? Et Jésus dit, oui, c'est vrai. Élie doit venir premièrement. Mais, en fait, je vous dis que Élie est déjà venu et ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont méprisé. De même, le Fils de l'homme, ils vont aussi le rejeter. Et à ce moment-là, ils comprirent que l'Élie dont il est question dans l'Ancien Testament, parce que c'est dit qu'Élie doit venir avant le Messie, ils comprirent que cet Élie-là, en fait, Jésus l'applique à Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de Jésus. Et on commence à comprendre des choses au contact de Jésus, dans son intimité, dans sa communion, que les foules n'ont pas accès, parce que c'est trop spirituel, trop élevé pour les foules. Les disciples ont accès donc à des enseignements spécialisés. Par exemple, dans l'enseignement sur le cep et les sarments. Jésus dit, moi je suis le cep. Vous, les croyants, vous êtes les sarments et mon père est le vigneron. Mais les sarments qui ne demeurent pas, s'il y a un sarment qui est en Christ mais qui ne porte pas de fruits, Jésus dit, il est retranché. Ça veut dire qu'il ne tiendra pas dans la présence de Dieu. Ensuite, si le sarment est bien en Christ et qu'il porte du fruit, Jésus dit, le vigneron va l'émonder afin qu'il porte encore davantage de fruits. Et on se rend compte que la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que nous portions du fruit, mais c'est que nous portions encore davantage de fruits. Mais déjà, porter du fruit, c'est un signe que nous sommes sur la bonne voie. Et ainsi, il conclut dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre,
c'est ainsi que mon Père
sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Et là, on retrouve, voilà ce qu'est un disciple, et vous le reconnaîtrez à leurs fruits, ils vont porter du fruit pour le Seigneur, l'œuvre de Dieu, ils vont servir, ils vont faire les œuvres de Dieu avec les qualifications de Dieu, parce que ce fruit que vous allez porter ne viendra pas de vos efforts, de vos forces, de vos capacités personnelles, mais viendra du fait que vous êtes en communion avec le cep, c'est-à-dire Jésus. La vie de Jésus vient en vous, ceci vous donne le fruit nécessaire, la vie nécessaire, et le fruit va être porté pour Christ. Alors vous allez développer en vous son amour. Jean 13, 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà la caractéristique que Jésus veut voir, le fruit qu'il veut voir. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous sommes ses disciples qui avons de l'amour les uns pour les autres? C'est toujours plus facile d'avoir de l'amour pour quelqu'un qui est très loin. Mais est-ce qu'on a de l'amour pour notre frère, notre sœur? C'est cela, le disciple. Ce n'est pas je vais aimer le missionnaire qui est à l'autre bout du monde. Seulement, oui, il faut l'aimer. Mais il faut aimer son frère et sa sœur qui est à côté de nous, avec son caractère, avec ses différences, avec ses particularités, avec ses singularités. Il est unique. Il n'y en a pas deux comme lui sur toute la terre. Voilà. Eh bien, il faut l'aimer comme ça. Et Dieu nous permet de développer la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, gloire à Dieu. Quelquefois, il faut exercer la maîtrise de soi. Donc, retenir les premières paroles qui viennent sur notre bouche. Tout cela, ça s'apprend avec la grâce de Dieu. Le soir de la dernière Pâque, Jésus avait bien ses disciples avec lui. Il avait les disciples parce qu'ils l'ont suivi jusqu'au bout. Il n'y avait que les 12. Les 70, ils n'étaient pas là. Les foules, ils n'étaient pas là. Vous comprenez, si vous êtes un disciple, vous aurez des moments particuliers que les autres n'ont pas. Et c'est le soir de la Pâque qu'il a pris le pain. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Prenez-en tous. Ceci est le vin, donc ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Et il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Ils sont les premiers à participer à la Sainte Cène. Et cette Sainte Cène, c'est la nouvelle alliance en mon sang, il dit. La croix va arriver, le sang de Jésus va être versé, la nouvelle alliance arrive. Il n'y a que les 12 qui ont participé, les 12 disciples. Mais pour faire partie des disciples, il faut accepter le renoncement, suivre Jésus, obéir à sa parole, le mettre en priorité dans notre vie, etc. Donc, on arrive maintenant à leur formation, c'est une troisième partie. Il faut accepter, si Jésus maintenant est votre Seigneur, qu'il vous forme. Regardez Matthieu 14, 22. Jésus a obligé les disciples à faire quelque chose. Mais dites-moi, est-ce que Jésus a le droit de nous obliger à faire quelque chose, Anne ? C'est un oui timide. C'est un oui du bout des lèvres. C'est un oui, mais en fait, on pense non. Eh bien, il faut dire un oui franc et massif. Oui, il a le droit, ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous plaît pas, et c'est le cas pour les disciples. Matthieu 14, 22, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui, il renverrait la foule. Bon, les disciples auraient préféré être un petit peu avec la foule pour bénéficier de la popularité, parce que c'est juste après le miracle des multiplications des 5 pains et des 2 poissons. Donc là, ils étaient assez élevés et ils pouvaient bénéficier un petit peu d'encouragement, de reconnaissance. La foule les aimait beaucoup. Ils avaient quand même fait le miracle avec Jésus, ils avaient distribué tout ça. En général, on aime bien notre liberté, puis on aime bien récolter un petit peu le fruit de ce qu'on a semé. Mais si nous voulons servir Jésus, uniquement si nous le voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons, avec qui nous le voulons et où nous voulons, on ne sera jamais un disciple. Parce que le disciple, il commence par passer par l'obéissance. Et Jésus les a obligés à faire quelque chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie, à ce stade, d'aller de l'autre côté, mais il les a obligés. Voilà. Pour vous, c'est la mission. Aujourd'hui, vous allez de l'autre côté. Et le disciple, lui, il va obéir. Voilà la caractéristique d'obéir. C'est « Oui, Seigneur, quel que soit ton temps, quelle que soit ta volonté, avec qui tu veux, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, j'y vais. » Et là, il n'y a pas beaucoup de volontaires en général, parce qu'on commence à calculer qu'est-ce que ça va nous coûter, comment on va faire, est-ce que vraiment Dieu va bénir, etc. On commence à raisonner, et vous verrez que là, il y a beaucoup moins de candidats. En général, là, c'est la phase de négociation avec Dieu. On dit, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça ? Et on cherche des moyens d'adapter un petit peu le plan de Dieu pour le minimiser, pour le changer, ou peut-être changer la destination. Alors là, on est dans le compromis. Un disciple, si on est vraiment mort à soi-même, si on a renoncé à tout, on est prêt à faire toute sa volonté, quoi qu'il arrive. Et là, on est un disciple. Vous voyez que tout se resserre et qu'il n'y a jamais vraiment beaucoup de candidats pour être disciple. Le contexte, Jésus donc, a fait ce miracle, il a une autre mission pour eux, et parfois vous serez amené, si vous aimez vraiment le Seigneur, à obéir à ce qu'il vous demande, même si vous ne comprenez pas tout, parce que les disciples, là, Jésus ne leur a pas dit tout, il leur a dit simplement « allez là-bas, sur l'autre rive ». Donc, bon, on ne comprend pas, mais on y va par la foi, on obéit au Seigneur. Mais si vous attendez que Jésus vous donne toutes les explications, qu'il vous dise, voilà, il va se passer ça, tu verras, ensuite il y aura ça, et puis après, à telle étape, il y aura ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut commencer par obéir, et ensuite, vous aurez les révélations à chaque pas. Donc, Jésus, par exemple, a envoyé 2 disciples devant lui préparer la Pâque, dans Matthieu 21, chapitre 21, versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. » Jésus aime bien utiliser ses disciples pour faire des petits services. « Allez dans le village, vous allez trouver un ânon, vous allez me le ramener. » C'est un petit service. On pourrait dire n'importe quel disciple peut faire ce type de service. Mais seulement, tout le monde n'était pas prêt à obéir à Dieu. C'était un peu particulier, il fallait prendre un ânon quelque part. Alors, si on vous dit, mais pourquoi vous prenez l'ânon ? Vous dites, le Seigneur en a besoin, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça, etc. On pourrait raisonner. Mais ils ont fait ce petit service, ils ont obéi au Seigneur. Et si vous vous estimez trop important pour faire les petits services, vous ne pourrez pas être un disciple. Parce que les disciples, ils étaient prompts à distribuer les pains, les poissons, à ramasser les pains qui restaient, à rendre des petits services, à préparer une barque pour le Seigneur, pour qu'il puisse parler. Donc, ils étaient toujours en train de rendre des petits services au Seigneur, ils étaient disponibles, mais un chrétien qui n'est jamais disponible, qui ne veut jamais rendre de petits services, qui ne veut rien faire, quoi, mais il ne peut pas être un disciple, en fait. Un disciple, il est toujours utilisé pour des petits services, pour le Seigneur. Avant de faire de grandes choses, on commence toujours par être éprouvé dans les petites choses. Alors, il y en a qui disent, moi, j'attends qu'on m'appelle au top niveau, et là, je répondrai. Non, on commence par faire les petites choses qui se présentent. Sinon, vous risquez d'attendre longtemps parce que ce service-là, il n'arrivera jamais. Jésus nous éprouve petit à petit. Jésus réprimande aussi ses disciples dans Marc 8, 33, quand c'est nécessaire. Il les reprend. Il s'agit ici de Pierre. Il le réprimande à Pierre. Vous connaissez cette histoire. Arrière de moi, Satan. Pierre avait repris le Seigneur pour qu'il n'aille pas à la croix. Et quelquefois, un disciple peut même se tromper quant à la pensée de Jésus, quant à sa volonté, et il doit être repris. Et nous, en tant que disciples, on doit accepter que le Seigneur nous corrige. Si nous nous sommes trompés, ben, on ne doit pas se vexer et se dire « Ah ben, si c'est comme ça, moi, terminé, je ne sers plus, je quitte mon service. » Non, si vous n'acceptez jamais les conseils, si vous refusez d'être enseigné par Dieu, si vous refusez d'être corrigé, si vous dites « moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout, Dieu me parle direct », vous refusez tout conseil, vous ne pouvez pas être un disciple. Et Pierre a appris à être enseigné par Jésus, à être corrigé, à être redressé, et il a grandi. Jésus a formé ses disciples à demeurer dans sa parole. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Remarquez que lui-même, Jésus lui-même, il parle de ceux qui sont vraiment ses disciples et de ceux qui ne sont pas vraiment. Mais si vous êtes vraiment ses disciples, alors vous demeurez dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'un disciple doit faire des choix qui sont clairs. Demeurer dans sa parole, c'est une décision. Quand on dit demeurer, c'est tous les jours. Un disciple, il est arrivé à un niveau où il lit la parole de Dieu tous les jours. Il est arrivé à un niveau où il prie tous les jours. Il ne se pose pas la question est-ce que je vais prier aujourd'hui, est-ce que le temps est assez beau pour que je vienne à l'église, est-ce qu'il va pleuvoir, non, je ne préfère pas venir. Non, le disciple, il a passé ce cap-là, il est prêt tous les jours à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Donc, prier tous les jours, il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est prier tous les jours, c'est lire la parole de Dieu tous les jours, c'est-à-dire une discipline spirituelle de vie où on met Jésus en premier. Ce n'est pas juste une question d'envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Non, non. Le disciple a dépassé le stade où il se dit, est-ce que j'ai envie de prier aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de lire la Bible aujourd'hui? Il a dépassé ça pour dire, je lis la parole de Dieu aujourd'hui, je vais prier aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'envie, ce n'est pas une question de temps, est-ce que j'ai le temps, j'ai pas le temps. Il dégage du temps dans son agenda. Le disciple, donc, a parce qu'il honore Dieu. Et puis, enfin, une quatrième partie, on voit quelques incompréhensions des disciples. Par exemple, lorsque les parents viennent pour que Jésus prie pour leurs enfants, ils repoussent les enfants pour qu'ils ne prient pas pour lui. Les disciples sont des adultes. Mais Jésus va rectifier leur erreur et leur dire, mais ceux qui sont comme ces enfants, le royaume des cieux est pour eux et il a béni les enfants. Donc, si nous cherchons vraiment à connaître la volonté de Jésus, il va nous enseigner. Par exemple, les disciples s'indignent un jour du parfum répandu par une femme qui vient avec un vase d'albâtre. Elle vient chez Simon le lépreux et elle répand tout le parfum sur la tête du Seigneur. Mais c'était un parfum qui valait beaucoup d'argent. Les disciples s'indignent et disent, Matthieu 26, verset 8, les disciples voyant cela s'indignent et disent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner le prix. En parlant comme ça, ils font du mal à cette femme qui a honoré Jésus en versant ce parfum sur sa tête. Ils la méprisent, ils disent « elle fait n'importe quoi, elle s'égare ». Ils ne voient pas les choses selon l'esprit, mais de manière charnelle. Et Jésus va les reprendre en disant « mais pourquoi vous lui faites de la peine à cette femme? Elle a versé ce parfum par anticipation, c'est comme pour ma sépulture. Elle a embaumé mon corps pour ma sépulture, elle a fait un acte prophétique. Et il est en train d'élever cette femme ». Comme quelqu'un de remarquable par sa foi et par son offrande. Donc il a eu beaucoup de patience avec comme il en a avec nous encore aujourd'hui. Même à un moment donné, il murmurait. Ils murmuraient contre Jésus dans Jean 6, 61. Jésus enseigne sur le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Les disciples ne comprenaient pas. Beaucoup l'ont abandonné. Mais si vous trouvez que les paroles de Jésus sont trop dures, vous dites, c'est pas possible d'être un disciple, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Ben, si vous le quittez à cause de ces paroles, en tout cas, sachez que vous serez mis à l'épreuve parce que Jean 6, 67 dit ceci. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Ça, ce n'est pas, une attitude tellement logique. Quand vous avez plein de gens qui vous abandonnent, déjà les foules qui partent, qui disent, bon, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? On aimerait mieux que quand même plusieurs restent avec nous, quoi. Et il dit aux 12, mais vous aussi, vous ne voulez pas partir? Les paroles ne sont pas trop dures pour vous? Pierre répondit, Seigneur, et voilà le disciple, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le disciple aime tellement les paroles de Jésus qu'il ne va pas les rejeter si elles sont dures, si elles sont choquantes, si elles lui font du mal. Et je termine avec la mission. Car Jésus a donné une mission aux 12 dans Luc 9. Il a assemblé les 12 et leur a donné force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies, c'est-à-dire l'autorité spirituelle nécessaire. Jésus nous a donné l'autorité spirituelle nécessaire pour faire son œuvre. Il a envoyé les disciples faire d'autres disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans la vision de Jésus, nous sommes appelés à faire des disciples. Un disciple fait un autre disciple. Nous partageons ce que nous avons reçu. Nous témoignons autour de nous des vérités de la parole de Dieu. C'est ça la vision du Seigneur. Et si vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 14 et au verset 21, vous voyez dans la réalité concrète que Paul faisait la même chose. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, qu'est-ce que Paul faisait? Il faisait des disciples. Ce n'était pas juste amener les gens à la foi, il les amenait à accepter le message de Christ, à renoncer à eux-mêmes, à accepter la volonté de Dieu pour leur vie. Donc ils retournèrent à Lystre, à Icône, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement appliqué la consigne du Seigneur, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Encore aujourd'hui, nous sommes amenés à témoigner pour faire des disciples, les amener à la connaissance de Christ, leur permettre d'accepter la parole de Jésus et de la mettre en pratique. On va prier quelques instants. Et dans cette conclusion, je dirais que Jésus suscite encore aujourd'hui des disciples. Et est-ce que vous êtes prêts à vous lever et à servir, à devenir un disciple selon le cœur de Dieu? Prêts à vous engager, à renoncer à vos projets, à chercher la volonté de Dieu? Parce qu'un disciple, on l'a vu, il donne tout. Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie, je te donne mes projets, je te donne mon avenir, je te donne mes biens. Seigneur, règne sur toute ma vie. Voilà le disciple. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais beaucoup qui sont motivés. Mais un disciple, il est prêt à tout donner humblement, à être engagé dans les choses de Dieu, et il est prêt à obéir à l'ordre de Jésus, quel que soit le prix à payer. Moi, je dirais ce matin, vous avez raison d'obéir à Jésus. Et si vous voulez véritablement devenir un disciple, moi, j'aimerais prier pour vous afin que vous puissiez faire ce pas de foi et accepter que Jésus règne sur votre cœur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es toujours ce roi de gloire qui a un plan, un projet béni pour chacune de nos vies. Et tu ne veux pas simplement que nous soyons des croyants, mais tu veux faire de nous de véritables disciples. Avec cette discipline de vie, avec cette obéissance à ta parole, être prêt à renoncer à tout pour faire ta volonté et te suivre. Oui, je te prie de bénir chacun et de nous fortifier ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen.